France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Les États-Unis de Donald Trump sont lancés dans une politique de pression maximale pour satisfaire leurs intérêts au pied du mur. Que peut l'Europe ? C'est notre nouvelle série cette semaine. Nous parlerons demain de sa contre-attaque aux pressions commerciales. Mercredi de sa quête d'une souveraineté technologique. Jeudi de la querelle des valeurs sur le continent. Quand certains ont la tentation du trumpisme. Aujourd'hui, le renforcement de la défense, le réarmement, quoi qu'il en coûte.
We are... In an era of rearmament.
Nous sommes dans une ère de réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense, à la fois pour répondre à l'urgence à court terme d'agir et de soutenir l'Ukraine, mais aussi pour répondre à la nécessité à long terme d'assumer davantage de responsabilités pour notre propre sécurité européenne.
Quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage, hausser notre position de défense, et cela pour la paix même, pour dissuader. À ce titre, nous restons attachés à l'OTAN et à notre partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Mais il nous faut faire plus, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité.
La Pologne est l'endroit sur Terre où personne ne veut que la guerre se répète. C'est nous qui avons le plus souffert en Europe pendant cette terrible guerre. C'est peut-être la raison pour laquelle nous comprenons si bien que pour éviter cette répétition tragique de l'histoire, nous devons tous être forts, armés, déterminés. Forts dans l'esprit, mais aussi forts dans nos capacités défensives.
S'armer pour éviter la guerre, disent Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron ou Donald Tusk. Acheter et produire des munitions, des avions, de l'artillerie, des drones et anti-drones. En venir à parler des armes comme s'il s'agissait de boîtes de conserve ou d'eau minérale. Éviter de penser ne serait-ce qu'à l'effet d'un obus. Que savent bien les soldats qui se battent en Ukraine. Un éclat de fonte en forme de hache polie néolithique, brûlant, fumant. Ce sont les mots de Jean Echenoz dans son roman 14. Un éclat qui surgit, bref, comme un post Scriptum, et bientôt des débris de corps, une tête sans mâchoire inférieure, une main revêtue de son alliance, un pied seul dans sa botte, un cil. Il ne s'agit pas ici de vous servir à un couplet antimilitariste, juste de peser les mots et se donner et redonner aux grandes déclarations politiques actuelles le poids qu'elles ont vraiment. Dans un contexte, il est vrai, bouleversé par le retour de Donald Trump au pouvoir et le discours de James David Vance à la conférence de Munich, l'Union européenne qui avait jusque-là délégué sa sécurité aux armées des États membres, mais surtout à l'OTAN et à son allié états-unien, est sommé de prendre son autonomie militaire, d'augmenter les budgets de la défense face à une industrie russe qui serait capable de produire en 3 mois plus d'armes et de munitions que l'Europe en 12. La guerre en Ukraine et la nouvelle donne internationale sont-elles en train de transformer la politique militaro-industrielle de l'Union européenne ? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Elsa Bernard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Lille, spécialiste des questions de défense européenne. Vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Bruxelles et je remercie Fabien Cazot de vous y avoir accueilli. Bonjour Julien Malizard.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes titulaire de la chaire économie de défense à l'Institut des hautes études de défense nationale, enseignant à l'Université Paris 1. Vous avez dit, Julien Malizard, à plusieurs reprises, quand vous avez été sollicité pour parler de réarmement de l'Europe ces dernières semaines, que vous n'aviez aucune intention de faire de la prescription. Pourquoi est-ce que vous vous êtes senti obligé de le préciser ?
C'est vrai que la période actuelle, elle est intéressante parce qu'on voit qu'il y a un besoin de réarmement. Mais je serais bien en peine de vous dire quel est l'objectif final. En fait, c'est un objectif politico-militaire quelque part. Et de ce point de vue-là, moi, je suis juste là en tant qu'analyste pour essayer de voir les trajectoires, mesurer les effets des choix qui vont être proposés, mais pas les éclairer en quelque sorte, mais pas dire lesquels il faut faire. On n'est pas prescriptif de ce point de vue-là.
En parler donc comme d'une politique publique avec ses cohérences et ses incohérences, ses calculs et ses rivalités, comme toute politique publique cette politique de la défense, sans être pour l'instant passé formellement en économie de guerre. Et je renvoie les auditeurs vers l'émission Entendez-vous l'écho qui a été consacrée à cette question récemment. Est-ce que l'Union européenne s'est calée sur un agenda politique de temps de guerre? Julien Malizard, c'est une expression qui revient ici et là. Qu'est-ce que ça veut dire, un agenda politique de temps de guerre?
En fait, il faut avoir conscience que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est juste qu'une adaptation par rapport à une situation qui était finalement un point bas de l'histoire en termes de dépenses de défense. Aujourd'hui, on a une adaptation d'un certain nombre d'États membres par rapport à des besoins militaires qui sont importants, compte tenu de la menace que fait poser la Russie sur la sécurité du continent notamment, mais ce n'est pas la seule. Et à partir de ce moment-là, les États ont revu leur budget à la hausse. Mais même le pays qui a fait le plus d'efforts budgétaires de ce point de vue-là, la Pologne, n'est aujourd'hui, en fonction des estimations, en fonction des années, entre 4 et 5% du PIB. C'est évidemment beaucoup, mais on est très loin de ce qui relève d'une économie de guerre, c'est-à-dire des efforts de défense massifs, plusieurs dizaines de pourcents de PIB dans la défense, 30 à 40%, comme c'est le cas de l'Ukraine aujourd'hui.
Elsa Bernard, le traité de Lisbonne comprend une obligation pour les États membres d'assistance commune, c'est l'article 40. De 7, jusqu'où sont définis les cas dans lesquels un État peut activer cet article et les autres États membres être obligés par ce texte?
Oui, donc c'est en effet l'article 42, paragraphe 7 du traité sur l'Union européenne qui instaure cette clause de défense mutuelle. Les cas sont très peu définis en réalité. Cet article est assez succinct. Il indique simplement qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Alors, le moyen militaire n'est pas expressément mentionné, mais il est bien sûr couvert par cette mesure. Et peut-être pour faire écho à l'article 5 du traité de Washington qui instaure l'OTAN, puisque évidemment il y a un parallèle à faire entre ces deux clauses, l'article 5 laisse la possibilité aux autres États de décider de telle action qu'il jugerait nécessaire pour intervenir en cas d'attaque armée contre l'un d'entre eux, même si cette attaque doit être considérée comme dirigée contre toutes les parties. Et l'article 42, paragraphe 7, n'a été activé qu'à une reprise par la France au moment des attentats en 2015. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de précédent à part celui-ci pour évaluer quelles seraient les conséquences de cette activation.
Et on entend bien à vous écouter, Elsa Bernard, que pour flou qu'il est, cet article 42, paragraphe 7, est quand même plus engageant que l'article 5 de l'OTAN si un État membre est menacé pour une obligation d'assistance commune. L'article 5 de l'OTAN, il est contesté de toute façon aujourd'hui par la puissance la plus importante de l'Alliance Atlantique, les États-Unis. C'est l'une des nombreuses raisons invoquées par les responsables européens qui jugent urgent de se défaire de leur dépendance à Washington. Comment est-ce qu'on la mesure, Julien Malizard, cette dépendance européenne aux armes états-uniennes et à l'ensemble de son complexe militaro-industriel?
Déjà, il y a un premier indicateur qui est important, c'est regarder combien les États dépensent. Et de ce point de vue-là, il est très clair que les dépenses américaines sont largement supérieures à individuellement ce que fait chacun des États membres, mais même collectivement, les États européens dans leur ensemble, ça fait à peu près 300 milliards d'euros, 300 milliards de dollars, on va dire, pour faire une approximation. Ça fait à peu près un tiers des dépenses américaines. Donc de ce point de vue-là, forcément, les Américains ont une puissance militaire qui est incomparable.
Et pourquoi c'est important de faire cette comparaison-là?
C'est souvent un enjeu à la fois de taille de marché pour l'industrie de défense, un enjeu de... Ça finance des équipements. Et donc en fait, quand on compare le volume des forces armées européennes par rapport aux États-Unis, globalement, en fait, on voit bien ici un rapport de puissance qui est... peut-être pas de un tiers comme on vient de voir, mais globalement qui est largement en faveur des États-Unis. Les États-Unis ont 11 porte-avions, c'est plus que tous les autres pays réunis du monde. Sachant qu'en Europe, en Union européenne, à part la France, ça tout dépend si on compte des porte-aéronefs comme des porte-avions, ce qui est un sujet majeur chez les stratégistes. En fait, on est complètement dominé quantitativement par les États-Unis.
Sauf qu'il n'est pas question de se battre un jour contre les États-Unis, mais la question est de savoir si les États-Unis arrêtent totalement leur soutien. Est-ce que l'argent qu'on mettra, que les Européens mettront sur la table sera suffisant pour compenser, en fait, c'est ça?
En fait, voilà, c'est ça. Un des enjeux, c'est celui-ci. Une étude avait été faite par l'International Institute for Strategic Studies il y a quelques années, en 2019.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un think tank britannique qui essayait de quantifier précisément de quoi auraient besoin les Européens s'il n'y a pas les États-Unis pour les défendre. Et en gros, il identifie tous les trous capacitaires des Européens. Et que ces trous capacitaires, de fait, ça nécessite beaucoup de moyens, donc évidemment en termes d'acquisition et donc en argent. Et c'est plus que ce que dépensent individuellement, enfin collectivement les Européens pour compenser ces trous capacitaires. Sachant que un des points qui est mis en avant, c'est que les Européens dépendent pour les structures de commandement de l'OTAN, c'est-à-dire que l'organisation militaire, donc le transatlantique, permet aux Européens de se coordonner. Si les États-Unis se retirent, il y a un doute sur la capacité des Européens de communiquer entre eux, de partager un certain nombre d'informations. Et ça nécessite là aussi des investissements majeurs qui évidemment, coûtent beaucoup d'argent, forcément.
D'un point de vue très technique et matériel, quels sont les secteurs les plus concernés par cette dépendance? On dit que la marine, l'armée terrestre aussi sont plutôt moins dépendantes que l'aviation, mais dans le détail, qu'est-ce qu'on...
Alors, quand on regarde la structure d'achat que font les Européens vis-à-vis des États-Unis, on voit bien que les États-Unis sont très dominants, enfin relativement dominants dans le marché des avions de combat. Donc les Européens vont plutôt acheter, pour ceux qui ne produisent pas d'avions du F-35, l'avion de combat qui est développé par les États-Unis et produit par Lockheed Martin, donc un industriel américain.
Qui assure aussi la maintenance.
Qui est alors, effectivement, un des sujets, c'est effectivement l'achat et la maintenance sur l'ensemble du cycle de vie. C'est un sujet majeur parce que la maintenance coûte horriblement cher aussi, en particulier sur le F-35, qui est un avion qui est connecté, qui donc nécessite régulièrement des connexions et des mises à jour pour être performant. Ceux qui ont acheté du F-35, c'est aussi ceux qui avaient acheté de la génération précédente, donc des F-16. Et donc, en fait, on voit une dépendance américaine qui apparaît très clairement dans le domaine de l'aéronautique, qui est moins vraie dans les hélicoptères ou les avions de transport, même si dans les hélicoptères et les avions de transport, les Américains font des matériels que les Européens ne produisent pas. Des hélicoptères lourds de transport, des avions de transport stratégiques, qui sont capables de porter de lourdes charges sur une distance très longue, les Européens ne sont pas capables de le faire. Dans le domaine du naval et du terrestre, à l'inverse, on voit que les Américains, dans le domaine du naval, n'exportent pas. L'essentiel de leur activité productive sert pour les besoins de l'US Navy. Donc, et les Européens, à l'inverse, ont beaucoup de producteurs qui sont des producteurs nationaux. Vous avez à peu près des champions nationaux dans chaque grand pays producteur. Et qui fournissent les équipements dont ont besoin les marines de chacun des pays. Et dans le domaine du terrestre, on voit aussi que chaque pays a des compétences industrielles. C'est souvent lié au domaine de l'automobile, en fait. Il y a des proximités technologiques dans ce domaine-là. Et on voit qu'il y a des productions qui est faites à l'échelle européenne, même si parfois certains producteurs ont été rachetés par des entreprises américaines. Donc en fait, c'est bien une production européenne, mais d'entreprises qui aujourd'hui, dont la gouvernance est assurée par les États-Unis.
Des joint ventures, comme on dit, c'est ça
son... Il y a des formes de joint venture ou des rachats, carrément, de filiales, en fait.
Donc il y a certains matériels que, de toute façon, l'Europe ne produit pas, où ils sont, les Européens, absents du marché. Vous le disiez, les plus gros modèles d'avions, les hélicoptères lourds, d'autres où là, les Européens fabriquent le Rafale français, l'Eurofighter supplanté aujourd'hui par tous ceux qui achètent des F-35 aux États-Unis, le missile franco-italien aussi Aster, qui est pour beaucoup boudé par tous ceux qui vont acheter aux États-Unis les missiles sol-air Patriot, comme la Pologne qui en est très dépendant, qui achète beaucoup aussi en Corée du Sud. Est-ce que tous les pays de l'Union européenne sont dépendants des États-Unis, même ceux qui se disent plus autonomes, comme la France par exemple, qui a une politique et des ambitions plus autonomistes entre guillemets?
En fait, on va retrouver des dépendances françaises vis-à-vis des États-Unis dans certains domaines du spectre capacitaire, notamment les drones, puisque historiquement, c'est un marché qui est couvert par les États-Unis, et donc on a acheté des drones américains. On a eu acheté ponctuellement aussi des avions de transport, le temps de recevoir les avions de transport A400M, qui est l'avion de transport fait en coopération au niveau européen. Mais globalement, la France fait partie de ces pays qui a une dépendance assez peu marquée vis-à-vis des États-Unis. Après, quand on regarde, par exemple, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne, qui sont dans le consortium Eurofighter, donc d'avions de combat, ils vont acheter des avions américains aussi. Donc on voit ici que pour des raisons qui divergent en fonction des États, on va retrouver des dépendances marquées avec... y compris pour ceux qui produisent. Alors remarquez, il faut relativiser, mais les États-Unis arrivent à pénétrer ce marché-là.
Avec des composants aussi qui sont essentiels dans la fabrication de certains armements que la France fabrique, mais qui ne peut pas se passer de ces composants états-uniens.
Il y a au moins en France, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est le cas aussi de pays partenaires européens, la volonté de réduire cette dépendance aux composants américains, parce que les Américains ont une capacité à faire prévaloir des droits sur des matériels pour lesquels le simple fait d'avoir un composant américain impliquerait un contrôle du Parlement américain. Et donc, donc c'est la norme qu'on appelle ITAR, qui est quelque chose qui a trait au commerce international de l'armement. Les Américains sont, en gros, peuvent bloquer des décisions d'exportation. Ça s'est retrouvé dans le cas français il y a une dizaine d'années. Et donc, pour éviter ça, la France a essayé de réduire au maximum sa dépendance aux composants américains.
Ça s'est passé dans le cadre d'un contrat de vente de missiles passé avec l'Égypte, auquel les États-Unis s'étaient opposés. Alors, c'est dans ce contexte d'ultra-dépendance qu'intervient le plan Rearm European Union, voté à l'unanimité le 6 mars dernier et salué par le président du Conseil européen, Antonio Costa.
Nos décisions d'aujourd'hui envoient un message clair. Nous joignons le geste à la parole et nous faisons ce que nous avions promis. Construire notre force de dissuasion, renforcer la sécurité de nos citoyens et, ce faisant, stimuler la compétitivité de l'Union européenne ainsi que sa base technologique et industrielle.
Voilà pour le discours général et maintenant dans le détail, Elsa Bernard, 800 milliards d'euros engagés dans les politiques de défense. Au-delà de l'effet d'annonce, comment doit être, non pas encore répartie cette somme, mais d'abord empruntée, puisque la sécurité et la défense ne figuraient pas comme une priorité dans le budget de l'Europe jusqu'en 2027.
Oui, alors en fait, sur ces 800 milliards d'euros, ça n'est pas de l'argent neuf, c'est pas 800 milliards d'euros tirés du budget européen. Il faut vraiment distinguer plusieurs éléments. D'abord, ce qui va être proposé par la Commission européenne après-demain, a priori, puisque là, pour l'instant, on est au stade du plan, mais il va falloir que ça se concrétise par des propositions. C'est d'abord un nouvel instrument qu'on appellera SAFE, de 150 milliards d'euros, fondé sur une disposition du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'article 122, et qui est une disposition qui est pensée pour les périodes de difficultés importantes dans la fourniture de certains produits. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir permettre à l'Union européenne de lever des fonds, de lever des obligations sur les marchés, pour ensuite prêter à des taux intéressants aux États membres qui le souhaitent. Donc c'est un système d'emprunt-prêt, mais cette base juridique, l'article 122 du TFUE... du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est la base juridique que je mentionnais
précédemment. Le traité de Rome, voilà.
Précédemment, tel que révisé par le traité de Lisbonne, disons. Et cette mesure prévoit des instruments qui font l'objet d'une proposition de la Commission et d'un vote du Conseil à la majorité qualifiée. Donc ça permet d'éviter l'unanimité, ce qui peut être très intéressant dans la période actuelle, mais ça évite aussi le Parlement européen. Et ça, c'est peut-être plus problématique. Et on attend évidemment la proposition de la Commission européenne, mais une question qui est posée, c'est celle de savoir si ces prêts vont être conditionnés. Est-ce que cet argent qui va être prêté aux États membres, est-ce que la Commission va aussi, et puis le Conseil ensuite, vont aussi leur imposer de l'employer de manière conjointe, ce qui est très important pour éviter la fragmentation des marchés, pour permettre l'interopérabilité, pour renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne et pas les bases industrielles de défense nationale. Donc ça, c'est une première question. Est-ce que ça devra faire l'objet d'achats conjoints, ce qui est probable? Et puis la deuxième condition qui risque d'être beaucoup plus problématique, est-ce que cet argent va devoir être orienté sur des achats européens, uniquement européens? Et ça, on sait que c'est une condition qui divise profondément les États et qui n'est pas, c'est une équation qui n'est pas simple à résoudre.
Accepter une préférence européenne, pour l'instant, la question est encore en suspens. La question aussi de la faisabilité et surtout de savoir si, parce que l'Union européenne pourrait emprunter en son nom auprès des marchés financiers parce qu'elle y est, dit-on, très crédible et qu'ensuite elle reverserait cet argent-là aux États membres, la question se pose aussi de savoir si les États membres, ça les intéresse tout simplement. L'Allemagne, par exemple, emprunte-t-elle aussi à taux très avantageux sur les marchés? Pourquoi est-ce qu'elle irait demander à l'Union européenne d'emprunter pour elle?
Tout à fait. Et par ailleurs, il y a d'autres États comme la France qui, eux, sont dans une situation différente qui consiste à se poser la question d'un endettement supplémentaire. D'autant que, là, j'ai parlé de 150 milliards d'euros sur les 800 milliards annoncés. Les 650 milliards d'euros restants, eh bien, c'est une estimation de la Commission dont on ne sait pas trop d'où elle vient, pour être tout à fait honnête, qui serait liée à l'activation de la clause dérogatoire prévue par le pacte de stabilité et de croissance pour permettre aux États d'aller au-delà du déficit public autorisé, le déficit de 3% du PIB. C'est une sorte de levée de frein à l'endettement, puisque l'Union européenne tolérerait un dépassement supplémentaire de 1,5% du PIB sur les 4 ans à venir. Et la Commission estime que cela permettrait d'engager 650 milliards d'euros supplémentaires dans la défense. Mais d'une part, il s'agit d'une simple spéculation. L'Union européenne n'a pas du tout la compétence pour forcer la main aux États membres dans ce domaine-là. Comme vous le disiez, il peut y avoir une certaine réticence de certains États membres à s'endetter davantage.
Surtout que la France et l'Italie que vous citiez et la Pologne sont en procédure de déficit excessif. Donc est-ce qu'elles auront envie d'investir dans la défense ? C'est une question en suspens, encore une fois.
Tout à fait. Et puis, si vous me permettez, c'est une tolérance qui est prévue pour 4 années. Donc c'est une durée limitée qui correspond mal aux dépenses collatérales suscitées par l'acquisition de matériel militaire. Il y a de la maintenance, vous en parliez tout à l'heure, il y a de l'entretien, il y a du personnel qui doit pouvoir s'occuper de ces équipements. Et 4 années, c'est court en réalité.
Avec aussi les objections qui sont soulevées, le fait que pour lever les 150 milliards d'euros sur les marchés, la Commission ne consultera pas le Parlement européen puisqu'elle va recourir à cet article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui lui permet de l'éviter. Ce qui pose question auprès des parlementaires, comme le député belge Marc Botenga, par exemple, qui le disait encore récemment au Parlement.
800 milliards, non pas pour augmenter les salaires des Européens, pour augmenter les pensions, ni pour garantir des soins de santé de qualité à tous les Européens sans liste d'attente, ni même pour avoir des bus ou des trains dans chaque ville, chaque village, de manière ponctuelle. Non, vous voilà épris de la folie guerrière. Félicitations, mais parlons vrai. Nous dépensons aujourd'hui déjà quoi, 2 à 3 fois plus que la Russie pour la guerre. Selon la presse allemande, ça nous fait actuellement 4 fois plus de navires de guerre que la Russie, 3 fois plus de chars de combat et d'artillerie et 2 fois plus d'avions de chasse. Tandis que la Russie n'arrive heureusement pas à conquérir même un quart de l'Ukraine. Donc avant que les Russes ne déboulent sur la grande place de Bruxelles, il en faut, oui, vous voulez pas l'entendre, c'est pas grave, c'est les faits, vous préférez l'idéologie. Mais arrêtez votre cinéma pour tous ceux ici qui veulent plus d'armes, plus de soldats. Vous allez y envoyer vos enfants à vous ? C'est ça ce que vous allez faire? Non, ce seront encore les enfants de la classe ouvrière qui devront mourir. Eh ben, nous l'accepterons pas. Nous devons coordonner plus, pas dépenser plus et investir finalement dans la diplomatie.
L'eurodéputé belge Marc Botenga qui déplore qu'il soit aussi question d'aller piocher dans les fonds de cohésion qui profitent aux régions les plus pauvres de l'Union européenne aujourd'hui pour réarmer l'Europe. Cette question de la place du Parlement dans la discussion et dans la politique de réarmement, Elsa Bernard, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus puisque la question de la défense a priori ne relève pas des compétences communautaires mais de la compétence des États. Donc toutes les démarches qu'a engagé la Commission dont vous nous parliez tout à l'heure, quelles questions juridiques est-ce qu'elle soulève ?
Alors, en réalité, il est vrai qu'à l'origine, la politique de sécurité et de défense commune, enfin, toujours, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'origine, dans les traités, on n'avait que la politique de sécurité et de défense commune, qui était une politique intergouvernementale. Donc, ce sont les États qui décident, réunis au sein du Conseil, des conseils, Conseil européen et Conseil de l'Union européenne, à l'unanimité. Ce qui fait qu'en pratique, ça veut dire droit de veto pour chaque État membre. En réalité, ce qui se passe depuis quelques années, c'est que dans les domaines dits communautaires, c'est-à-dire les domaines dans lesquels la Commission a une compétence, le Parlement européen a une compétence, la Cour de justice de l'Union européenne a une compétence, donc des institutions qui ne représentent pas les États, mais qui représentent l'intérêt européen, le droit, qui représentent les citoyens européens, eh bien, la défense est de plus en plus prise en compte par ces politiques. Je pense notamment au domaine de l'industrie, à la recherche, au transport. Donc, il y a une compétence de la Commission et du Parlement notamment dans ces domaines qui sont des politiques communautaires qui vont avoir à s'occuper des questions de défense. Et l'industrie de la défense, c'est évidemment très important. La clause que je mentionnais, la disposition que je mentionnais, l'article 122 du TFUE, elle est dans le domaine communautaire, ce qui explique que c'est la commission qui va proposer une mesure, mais parce que il s'agit d'une disposition un peu particulière, encadrée d'ailleurs de plusieurs garanties juridiques, on considère qu'il y a une forme d'urgence, et donc on doit se passer du Parlement européen. L'avantage, encore une fois, c'est que le Conseil ne va pas se prononcer à l'unanimité. Donc, c'est pas de l'intergouvernemental pur, disons.
Pas la majorité certains qualifiée. États
qui, exactement. Certains États qui pourraient ne pas souhaiter que ces mesures soient adoptées, eh bien, devraient tout de même les appliquer.
Est-ce que la Commission européenne est en train, d'après vous, Julien Malizard, de créer un précédent, d'obliger les États à reconsidérer de quoi relève la politique de défense, puisque là, on entend bien ce que nous dit Elsa Bernard, que là, il s'agit de créer un instrument au titre de la compétence industrielle de l'Union européenne qui relève du communautaire. Est-ce que progressivement, les lignes de compétences de la Commission et de l'Union européenne sont en train de bouger ?
J'avoue que là, ça dépasse un petit peu le cadre de mes réflexions, mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est que dans le plan qui a été annoncé par la présidente de la Commission il y a 15 jours déjà maintenant, Rearm Europe, en fait, une grande partie du plan, comme ça a été dit, est laissée à la discrétion des États membres. Donc en fait, on voit bien ici qu'il s'agit pour ces 650 milliards dont on ne sait pas trop d'où ils sortent d'un point de vue calculatoire, on va laisser la main aux États. Donc en fait, ils feront leur stratégie d'acquisition d'équipements, ils le dépenseront comme ils le souhaitent. Et donc là, en fait, on est plutôt sur une logique budgétaire. On va donner des marges de manœuvre qui n'existaient pas par le passé aux États membres pour pouvoir dépenser plus. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est plutôt dans les dispositions qui relèvent du fameux emprunt qui sera passé, de 150 milliards, comment l'argent va pouvoir être dépensé. Parce que là, de fait, on voit bien que ça va potentiellement, en termes de politique industrielle, on va avoir des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Si jamais on laisse une nouvelle fois les choses aux mains des États, ils en feront ce qu'ils veulent et ils pourront potentiellement acheter des équipements en dehors de l'Union européenne, comme ça a été le cas pour un certain nombre d'entre eux.
Ils n'auront pas à montrer le ticket de caisse et dire « Regardez, on a acheté européen, donc on a droit à cet argent. »
Exactement. Soit on considère qu'on va avoir des choix d'acquisition qui vont se faire à une échelle communautaire, ce qui, jusqu'à présent, n'est pas le cas, puisque pour l'instant, les initiatives de la Commission européenne, de ce point de vue-là, sont extrêmement limitées. On a le Fonds européen de défense, qui est un fonds qui est assez limité. C'est entre 1 et 1,5 milliard d'euros par an pour faire du développement de capacités. Et donc là, il s'agissait, sur les années prochaines, à passer le cap et à produire. Mais jusqu'à présent, on était plutôt sur les phases amont. Donc en gros, on pense, on va concevoir les produits, mais on ne va pas les produire. Donc c'est là, on va rentrer dans le dur du sujet, en fait.
Elsa Bernard, vous souhaitiez réagir ?
Oui, il faut jamais oublier que c'est le Conseil européen qui demande à la Commission, et il l'a encore fait le 6 mars dernier, de proposer en réalité des mesures pour pouvoir utiliser le budget européen pour susciter des dépenses en matière de défense. Donc, à l'origine de ces propositions de la Commission, il y a quand même les États membres, et là, les États membres à l'unanimité, parce que les conclusions du Conseil européen sur la partie défense européenne, pas sur la partie soutien à l'Ukraine, mais sur la partie défense européenne, elles ont été adoptées à l'unanimité. Donc ça vient bien des États membres, la demande au départ.
Les États membres qui, sur cette question de la défense, sont aussi coopérants que rivaux, Julien Malizard. En matière d'industrie de défense, l'Union européenne compte de nombreux adversaires, on va le dire, sur un plan commercial, des États membres qui veulent que l'argent qu'ils engagent leur profite au niveau national et à la hauteur de l'investissement consenti. Est-ce que ce sont plutôt les États ou les entreprises qui cultivent cette logique de l'intérêt national ?
En fait, c'est ce mélange, parce que bien souvent, il y a une forme de biais national, c'est-à-dire que quand on achète des équipements, on va plutôt acheter auprès des industriels nationaux. Quand on a une industrie de défense, quand on n'en a pas, le problème se pose différemment, et on voit bien que la dépendance américaine peut être beaucoup plus forte, parce que justement, on va avoir des liens de préférence transatlantique pour la sécurité de pays, etc. Mais si on a une industrie de défense, on voit bien que l'enjeu est plutôt de stimuler la production nationale, ce qui passe sans poser de difficultés, parce qu'on aura, on a des enjeux de taille de marché individuellement. Les marchés européens sont petits. Le marché français, qui est un des marchés les plus larges, il est quasiment 10 fois plus petit que le marché américain. Donc forcément, il faut agrandir la taille du marché, et agrandir la taille du marché, ça veut dire trouver des débouchés pour les États. Donc on voit bien qu'on est à l'intersection à la fois de problématiques industrielles, mais aussi des problèmes étatiques, puisqu'il faut élargir la taille du gâteau, en quelque sorte, trouver de nouveaux débouchés. Et ces débouchés, naturellement, en ce moment, on voit bien qu'ils peuvent être européens, puisqu'il y a une demande qui est exprimée par les Européens. Le problème, c'est que jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à encore il y a peu, beaucoup des commandes qui ont été passées sont des commandes qui viennent de l'extérieur de l'Europe. Donc on voit bien que un des sujets majeurs pour les Européens, c'est de trouver des débouchés pour les industriels européens, qu'ils soient français, italiens, allemands, suédois, britanniques, de trouver des débouchés en Europe, chez les Polonais, chez les Roumains, chez les Bulgares, chez les États baltes, qui ont une dynamique de budget qui est extrêmement soutenue.
Mais qui en ont peut-être pas besoin au même titre que jusqu'à présent ceux qui achetaient auprès de ces pays grands fournisseurs d'armement, grands producteurs comme la France. C'est-à-dire, est-ce que la France peut compenser la perte de marché, par exemple, aux États-Unis, si elle, avec des partenaires européens?
Alors, le fait est que jusqu'à présent, les Européens n'étaient pas très dépendants des marchés européens. Les perspectives de croissance sur les marchés de l'industrie d'armement, c'était le Moyen-Orient, le proche et Moyen-Orient, on va dire, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est. L'Europe était généralement des relais de croissance assez faibles. C'est plus le cas depuis la guerre en Ukraine. On voit qu'il y a une demande qui est exprimée. Au tout début de la guerre, il y avait un enjeu d'acheter des matériels où il y avait du stock, ce qui est le cas des Polonais qui ont acheté des stocks de chars, par exemple, aux États-Unis ou en Corée du Sud. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de stock, donc il s'agit de passer des commandes nouvelles. Aujourd'hui, il y a des perspectives de croissance dans les pays européens pour les industriels d'Europe, qui sont essentiellement des industriels d'Europe de l'Ouest. Mais il y a un enjeu de convaincre que les matériels européens, non pas qu'ils soient pas au bon niveau technologique, ils le sont, mais c'est en gros dans quel délai on va être capable de fournir les équipements, quel transfert de technologie on va pouvoir réaliser avec nos partenaires européens, parce que eux aussi ils dépensent beaucoup d'argent, mais ils veulent monter en compétences industrielles. Et donc c'est bien un des enjeux de la question que vous posez tout à l'heure. C'est en gros, on veut soutenir des alliés, mais on a potentiellement peur de créer des rivaux industriels futurs si jamais ils arrivent à monter en compétences.
Or, il s'agit de ne pas se fâcher avec Washington, disent au sein de l'Union européenne plusieurs États qui souhaitent conserver un accès au marché intérieur, ne serait-ce que ça, comme l'Allemagne ou d'autres qui ont là-dessus un point de vue plus politique, la Pologne, les Pays-Baltes. Je vous propose d'écouter Viktor Orban sur les investissements européens. D'accord pour dépenser plus, mais pour faire quoi ?
Au regard de la situation mondiale, la politique du président Trump est plus que pertinente. Nous, de notre côté, nous sommes d'accord pour dire que nous devons dépenser plus, mais il faut que nous nous mettions d'accord pour savoir pourquoi faire. Beaucoup d'options sont sur la table. Par exemple, investir pour avoir de plus gros moyens militaires. Mais en même temps, l'Europe veut financer l'armée ukrainienne et l'État ukrainien, ce qui coûtera d'autant plus cher que les États-Unis risquent d'arrêter de soutenir Kiev. On ne peut pas assumer toutes ces responsabilités à nous seuls. L'Europe ne peut pas se le permettre.
Viktor Orban, dont on parle aujourd'hui comme d'un cheval de Troie de Donald Trump au sein de l'Union européenne. On y consacrera d'ailleurs un épisode entier dans notre émission de jeudi, mais pas seulement à lui, d'ailleurs à l'Italie aussi et à d'autres. Là-dessus, Elsa Bernard, sur la question de ces États membres qui veulent continuer à acheter aux États-Unis, comment le justifie-t-il et comment, en général, ceux qui en discutent entre eux parviennent ou pas à trouver des accords, à trouver des points sur lesquels ils peuvent se mettre d'accord.
Ça, c'est un vrai point de conflit. Et je pense qu'il n'y a pas qu'une question de volonté là derrière. Il y a aussi une question de capacité. C'est-à-dire que la France pousse beaucoup pour que le budget européen soit consacré à des achats européens. Et il en va de l'autonomie stratégique de l'Europe. C'est évident et ça a très bien été expliqué par Julien Malizard tout à l'heure. Si on continue à se fournir auprès des États-Unis, eh bien voilà, il y a un risque de dépendance. Qui peut poser problème selon les présidents, selon les périodes, etc. Donc la France est vraiment très favorable à des achats européens. D'autres États le sont beaucoup moins. Soit parce que, comme vous l'avez dit, il y a une volonté politique de maintenir un lien aussi ténu soit-il avec avec les États-Unis, soit parce que tout simplement, eh bien, les équipements, on ne les a pas, et donc l'urgence impose d'aller se fournir là où les produits de défense sont, et donc parfois auprès d'États tiers. Donc là, vraiment, je pense que il faudra lire avec intérêt la proposition de la Commission mercredi prochain. Peut-être aussi le livre blanc, mais la proposition d'instrument safe, hein, je veux dire cette proposition d'instrument de 150 milliards qui doit être proposée mercredi en même temps que le livre blanc, parce que on attend de voir si ce qu'a déjà évoqué la présidente lors de la présentation de son plan, mais qui n'a pas été repris par le Conseil européen deux jours plus tard, à savoir une forme de préférence pour le buy European, pour les achats européens, eh bien si c'est maintenu dans le cadre de la proposition, parce que ça, on sait que c'est le gros sujet de discorde entre les États membres.
Donc ça, on en saura davantage mercredi, jour où sera également présenté, vous le disiez, le livre blanc de la défense, le tout premier pour l'Europe. L'émission Question du soir sur France Culture, d'ailleurs, en parlera mercredi en ayant entre les mains, si j'ose dire, le texte de ce livre blanc et les propositions, et pourra en faire débattre les invités autour de la table. En attendant, Julien Malizard, qu'est-ce qu'on en attend de ces documents mercredi ?
En fait, il y a un enjeu de cohérence. Les livres blancs, en général, c'est un document qui permet de mettre en perspective l'état du monde, les menaces auxquelles on fait face, et expliquer quelles sont les ambitions par rapport à ça, comment on veut se défendre. En tout cas dans la perspective française, mais puisqu'on n'en a pas encore vu à l'échelle européenne, donc ça va être intéressant de regarder ça de manière précise. C'est en gros la mise en cohérence de la politique de défense. Cette mise en cohérence, après, elle doit être aussi liée à des moyens, c'est-à-dire combien on va dépenser, par rapport à l'état du monde tel qu'on l'aura décrit, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et donc, ça veut dire combien d'argent on veut y associer. Cette partie-là, elle est un peu compliquée. On voit bien qu'aujourd'hui, tout ça est laissé à disposition des États membres, avec des initiatives récentes dont on ne sait pas encore vraiment comment ça va pouvoir être dépensé, oui, en fait, de manière très concrète. Donc, on est un peu dans l'expectative par rapport à ça, sachant que les expériences passées de documents, il y a eu la boussole stratégique qui est sortie il y a quelques années. C'était en gros le plus petit dénominateur commun parmi les États membres, et on avait quelque chose de peut-être un peu d'eau tiède, on pourrait dire. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'enjeu de la sécurité transatlantique était majeur pour un certain nombre de pays européens. On voit depuis deux mois que l'élection de Trump, qu'il y a un doute sur la garantie de sécurité transatlantique. Ce que vivent certain nombre de pays d'Europe de l'Ouest, et ce que nous voyons aussi en tant que Français, peut-être un peu protégés par la dissuasion, mais pas que, c'est peut-être ce que vivent un certain nombre d'États membres de l'Union européenne qui sont plus en Europe centrale ou orientale. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un moment de prise de conscience collective qu'il va falloir changer et favoriser un pilier européen de l'OTAN, ou en tout cas se développer la sécurité européenne pour elle-même, en fait, quelque sorte.
Vous voyez, vous faites de la prescription, finalement, même quand vous ne voulez pas en faire.
C'est-à-dire qu'on voit que c'est un sujet majeur, c'est-à-dire de minimiser les dépendances. Oui. Je ne dis pas comment il faut les faire, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est dans un moment un peu original, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui est collective, de faire autrement, en tout cas.
Elsa Bernard.
Oui, sur le livre blanc, je doute qu'il soit tout à fait révolutionnaire compte tenu de ce qui a déjà été annoncé début mars par la présidente de la Commission européenne. Mais je pense qu'il y a un point qui n'a pas été abordé ici et qui est très important pour la défense européenne aussi, c'est ce qui se passe en Allemagne, et notamment, alors outre le plan de 500 milliards pour les infrastructures, l'exemption du frein à l'endettement pour toutes les dépenses de défense supérieures à 1% du PIB, ça risque d'être révolutionnaire pour la défense européenne.
De tout le latin qu'on m'a fait faire, je n'ai gardé qu'un minimum, c'est que 6 siècles avant notre ère, un super stratège en péplum, dans un long traité militaire, dont j'ai fait mon vademécum, écrivit cette phrase austère, mais vraiment digne d'un grand homme. Tu veux la paix, prépare la guerre, civis pacem, parabellum, civis pacem, parabellum. que la formule est élégante. C'est grand, c'est triste, mais c'est beau. Moi j'en ai fait une variante. Si l'espacem par à vélo part à l'aventure. Loin des pare-chocs, loin des autos, loin des parkings que l'on sature. Loin des parcs-mètres et du métro, par au hasard dans la nature. Loin de l'angoisse des cités, et tu verras, je te l'assure, que partir c'est ressusciter. Que partir c'est ressusciter. À la TV, un journaliste interviewait avec égard un général, un spécialiste, qui dans sa tenue léopard déclarait: soyons réalistes et pourfendons de part en part la clique anti-militariste, les objecteurs et les sanars, si vis passem parachutiste. Conclut ce général bizarre, conclut ce général bizarre. On sait hélas.
Une fois n'est pas coutume de la chanson française dans Culture Monde. Jean-Roger Caussimon, auteur, compositeur, interprète français, auteur de plusieurs chansons pour Léo Ferré. Et cette chanson, Si Vis ou Si Wis Pacem, qui date de 1977. Si Vis Pacem Parabellum, c'est l'argument de l'Europe pour se réarmer massivement aujourd'hui. Nous en parlons avec nos invités, Julien Malizard. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Pardon, je l'ai pas dit en français. On en parle avec nos invités, Julien Malizard et Elsa Bernard. C'est le premier épisode de notre série sur l'Europe au pied du mur et qui se cherche des alliés pour mener à bien sa politique de réarmement. Ce week-end, un sommet virtuel a réuni 25 dirigeants s'affichant comme alliés de l'Ukraine à l'initiative du Premier ministre britannique Keir Starmer.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Last week, la semaine dernière, j'ai annoncé la plus forte hausse du budget militaire britannique depuis la fin de la guerre froide. Dans le même temps, j'ai aussi rencontré le président Donald Trump pour renforcer notre relation avec les États-Unis, qui reste un partenaire indispensable en matière de sécurité et de défense. Mais j'ai aussi accueilli ce week-end l'ensemble des leaders européens ici, à Londres, pour travailler ensemble à la sécurité collective de l'Ukraine, du Royaume-Uni et de l'Europe dans son ensemble.
Le Royaume-Uni pris en tenaille entre son engagement aux côtés de l'Ukraine et la relation spéciale qu'il entretient avec Washington. Bonjour Thibault Arroy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle, auteur d'une thèse sur le traité de Lancaster sur la coopération franco-britannique. On en parlera d'abord sur les dernières déclarations du Premier ministre Keir Starmer, qui n'exclut pas, selon la formule consacrée, d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Est-ce qu'il a précisé dans quelles circonstances il en déciderait ?
Alors non, pour l'instant, le projet est encore en cours de réflexion et je crois que bon, c'est une initiative qui est une initiative fondamentalement franco-britannique. Et pour l'instant, du côté de la France comme du côté du Royaume-Uni, il s'agit de trouver les partenaires qui pourraient éventuellement rejoindre une coalition dont les formats sont encore à définir pour, en effet, envoyer des troupes sur le sol ukrainien.
Le corps expéditionnaire conjoint qui a été créé avec la France en 2010 par ces accords de Lancaster, est-ce qu'il pourrait être mobilisé dans ce cas précis ?
On peut envisager que ce soit, en effet, peut-être une première occasion d'employer cette force, même si ce n'est pas forcément pour ce type d'opération qu'elle a été mise en place. Et on voit mal comment les Français et les Britanniques, seuls à eux seuls, pourraient assurer la paix en Ukraine. Et ils ont besoin d'élargir cette coalition à d'autres.
C'est un corps expéditionnaire qui n'a encore jamais été envoyé sur un théâtre d'opération extérieur, qui compte aujourd'hui combien d'hommes et de femmes, d'ailleurs, est-ce qu'il peut être aussi étoffé, élargi dans certaines circonstances ?
Alors, c'est un corps qui peut être étoffé et qui, en réalité, n'est pas une force constituée qui est en permanence prêt à être déployé. C'est-à-dire qu'on n'a pas un endroit où on a des soldats français et britanniques qui ensemble seraient sur une base, par exemple. En fait, la France et les Britanniques se sont engagés à pouvoir mobiliser, dans le cas où on souhaiterait envoyer cette force quelque part, les hommes et puis aussi le matériel nécessaire pour une expédition. Mais comme vous l'avez rappelé, c'est une force qui, pour l'instant, certes, est prête sur le sur le papier, mais qui politiquement n'a jamais été mobilisé.
C'est une solidarité avec l'Ukraine qui se manifeste depuis le Royaume-Uni. Depuis 2015, en fait, l'armée britannique a entraîné des troupes ukrainiennes dès l'annexion de la Crimée. C'est l'opération Orbital, a livré des armes depuis 2022, entraîné des soldats, un soutien financier aussi. Donc il y a la solidarité avec l'Ukraine et aussi le fait que le Royaume-Uni se sente vulnérable vis-à-vis de la Russie.
Oui, alors c'est vrai que c'est très clair depuis le début de la guerre, et là il n'y a pas eu d'hésitation du côté britannique sur le soutien à l'Ukraine, et vous l'avez rappelé, même avant cette invasion large de l'Ukraine en 2022, il y avait déjà, suite à la première guerre en Ukraine en 2014, un soutien et un entraînement des troupes ukrainiennes. Et du côté du Royaume-Uni, il est très clair que la Russie a été identifiée comme une menace depuis bien longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé dans les documents stratégiques britanniques petit à petit au cours des années 2010. Et on voit bien aussi que la Russie a eu des actions très hostiles vis-à-vis du Royaume-Uni, jusqu'à aller assassiner, par exemple, d'anciens membres des forces spéciales, ou en tout cas essayer d'assassiner des membres des forces spéciales sur le sol britannique. Alors que voilà, c'est pas un pays contre lequel ils sont en guerre officiellement. Donc il y a vraiment ce sentiment d'une menace russe qui est très présent au Royaume-Uni, et peut-être plus encore qu'en France, en tout cas au début de la guerre en 2022. Il n'y a pas eu d'hésitation du côté britannique sur le soutien apporté à Zelensky.
Alors, les accords de Lancaster de 2010, ils prévoient des projets industriels conjoints entre le Royaume-Uni et la France, ou plus largement l'Europe. Mais dans quelle mesure dans quel secteur le Royaume-Uni est-il plutôt dans un état d'esprit de coopération avec l'industrie européenne, et dans d'autres plutôt dans un état d'esprit de concurrence?
Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que le Royaume-Uni est évidemment un partenaire des Européens, ça c'est évident, et on l'a rappelé avec le traité franco-britannique, mais il y a aussi d'autres traités qui existent ou qui vont bientôt être signés probablement, par exemple avec l'Allemagne, un renforcement des liens avec les pays nordiques, avec la Pologne aussi. Donc il y a des partenariats divers qui existent, mais il n'y a absolument pas l'idée que le Royaume-Uni renoncerait à toute forme de concurrence. C'est le cas généralement dans l'industrie de défense. C'est pas parce qu'on est un partenaire qu'on ne peut pas, dans d'autres cas, être un concurrent sur d'autres projets. Et donc c'est quelque chose que les Britanniques vont continuer, une position que les Britanniques vont continuer à adopter dans les années à venir, certainement.
Le Royaume-Uni avait ravi à la France, par exemple, l'accord que celle-ci avait signé avec l'Australie pour des sous-marins français. C'est encore tout frais dans les mémoires des militaires de part et d'autre de la Manche. Est-ce qu'il y a de la concurrence sur d'autres projets aujourd'hui?
Alors oui, par exemple, sur le projet d'avion de combat du futur, hein, ça c'est un projet qui à l'origine était un projet franco-britannique, qui a été abandonné au cours des années 2010, et aujourd'hui on voit que les Britanniques ont un nouveau projet d'FCAS avec l'Italie et le Japon, alors que la France, de son côté, a développé un autre projet avec l'Allemagne et l'Espagne. Et donc on a vu que voilà, ce partenariat franco-britannique avait évolué, il y a différentes formes de partenariats qui peuvent exister selon les cas.
Alors, au-delà des accords signés ponctuellement sur des projets précis et qui ouvrent de nouveaux marchés au Royaume-Uni par ailleurs, est-ce que les Européens et les Britanniques peuvent s'entendre sur la position à adopter vis-à-vis des États-Unis, cette fois la juste distance avec cet allié qui se désengage?
Alors, si on regarde sous l'angle de l'industrie de défense, on voit que ça va être difficile, et je pense que les invités précédemment l'ont montré, hein. On peut pas du jour au lendemain passer d'une industrie qui dépend largement des États-Unis à une industrie qui serait uniquement basée sur des contrats en Europe, tout simplement parce que déjà on n'aurait pas forcément les moyens, et puis parce que tout ça prend du temps. C'est-à-dire que même si les décisions étaient prises aujourd'hui, c'est pas du jour au lendemain qu'on réorganise complètement l'industrie de défense. Par contre, sur l'attitude vis-à-vis des États-Unis, je pense que du côté du Royaume-Uni, il y a toujours l'idée que les États-Unis demeurent au cœur de l'Alliance Atlantique, et que l'Alliance Atlantique est l'alliance fondamentale pour la sécurité de l'Europe. Et ça, les Britanniques ne sont pas prêts à tourner la page et aujourd'hui à voir les choses autrement. Donc peut-être que du côté britannique, l'idée va plutôt être de convaincre les États-Unis que c'est dans leur intérêt de continuer à rester impliqués en Europe, en donnant des gages aux États-Unis, en renforçant et en participant à cet effort pour renforcer l'Europe de la défense, ou si c'est pas l'Europe de la défense, c'est-à-dire une défense en Europe, mais sans faire concurrence jamais avec l'Alliance Atlantique, qui reste vraiment dans l'esprit britannique, au cœur de la sécurité européenne.
On a entendu aussi Keir Starmer, le Premier ministre travailliste britannique, souvent dire qu'il voulait éviter, en tout cas on l'imagine, éviter les droits de douane sur les exportations britanniques. Finalement, l'aluminium et l'acier n'ont pas échappé aux droits de douane à 25%. Le potentiel accord de libre-échange qui est négocié entre le Royaume-Uni et Washington et entre en ligne de compte, là aussi, dans la position qu'adopte Keir Starmer par rapport à Washington.
Oui, je crois que ça fait partie des conséquences du Brexit, évidemment, de voir comment le Royaume-Uni pourrait développer d'autres partenariats. Alors, sachant que l'économie britannique repose largement sur le lien avec les partenaires européens, et l'Union européenne reste le partenaire principal pour l'économie britannique, mais puisqu'on doit chercher de nouveaux partenariats, évidemment, les États-Unis sont un partenariat qu'on cherche à renforcer. Alors, cet accord de libre-échange, le problème, c'est que ça fait déjà bien longtemps que les négociations sont ouvertes. Trump, pendant son premier mandat, avait fait durer. Finalement, c'est quelque chose dont on n'a plus trop entendu parler sous le mandat de Joe Biden. Et là, aujourd'hui, voilà, le potentiel de cet accord est de nouveau mentionné, sauf qu'on ne voit pas bien ce qu'on pourra mettre dans cet accord et comment il pourrait être favorable aux intérêts britanniques. Et là, il y a vraiment une inquiétude du côté britannique, c'est de savoir s'ils arriveront à tirer leur épingle du jeu ou si la force de frappe des États-Unis est telle que finalement, c'est un accord qui sera fondamentalement asymétrique.
Alors, il y a beaucoup de liens entre la France et le Royaume-Uni dans le domaine aussi militaire, Thibault Haroy. Pour conclure, ce sont les deux seuls pays de la région à détenir la bombe atomique. Est-ce que cela a fait l'objet de discussions récentes entre les deux États? Mutualiser la dissuasion, par exemple, est-ce que cette idée même a un sens?
Alors, tout dépend de ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que s'il s'agit d'avoir une dissuasion nucléaire commune, non, c'est pas du tout quelque chose qui est discuté, c'est absolument pas ni la position française, ni la position britannique. En revanche, il y a, depuis le milieu des années 90, déjà la reconnaissance que les intérêts de l'un seraient protégés par la dissuasion de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'assez ancien, puisque ça date de 1995, avec la déclaration de Chequers. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les Européens cherchent à savoir comment éventuellement la dissuasion nucléaire à la fois française et la dissuasion britannique pourrait s'étendre aux intérêts de l'Europe entière, quelque chose qui, là non plus, n'est pas complètement nouveau. Mais encore une fois, il ne s'agit absolument pas de céder le droit d'utiliser l'arme atomique à d'autres États ou même d'entreposer des armes britanniques sur le sol d'un autre État. D'ailleurs, c'est une dissuasion qui est essentiellement sous-marine, uniquement sous-marine. Donc c'est vrai que c'est pas du tout comme ça que les Britanniques envisagent la chose, et je crois que la position n'est là-dessus pas si différente de la position française.
Merci beaucoup Thibault Haroy d'avoir été avec nous, maître de conférence en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Alors, un mot pour conclure, Julien Malizard, on a entendu que le Royaume-Uni et l'Europe ont dans certains domaines plutôt intérêt à une coopération. La force navale britannique est capable de se projeter partout. Elle a deux porte-avions, donc c'est pas là-dessus qu'elle va chercher les Européens, mais elle manque de frégates, de destroyers, de marins aussi pour les protéger. Elle manque de chars d'assaut et de munitions, cette armée britannique. En revanche, l'Union Européenne, elle, qu'est-ce qu'elle peut attendre du Royaume-Uni dans ce nouveau contexte?
On voit bien qu'il y a des projets industriels autour de MBDA, par exemple, qui est un industriel qui fait des missiles. Coopération qui est inscrite depuis quand même quelques années déjà maintenant.
Italo-britannico-européenne.
Exactement, française, un petit peu l'Allemagne aussi. Et donc là on a des projets industriels de bon niveau. Après, sous l'angle capacitaire, en fait, ce qu'on voit, c'est que les Européens ont une taille critique collectivement. Donc, associer les Britanniques là-dedans, ça permettrait de renforcer le pilier européen de l'OTAN.
Merci d'avoir été avec nous, Julien Malizard. Et merci également Elsa Bernard, un économiste, une juriste, pour parler avec distance de ce qui est en train de se décider en ce moment en Europe. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous commencez cette revue de presse en Corée du Sud, Catherine, où l'engouement pour les cours privés se confirme.
4 enfants sur 5 en Corée du Sud suivent des cours particuliers, sont inscrits dans des hagwon, ces écoles privées où l'on bachote, surtout en sciences et en anglais, dans l'espoir d'intégrer une université prestigieuse, considérée comme une condition sine qua non de la réussite, souligne le Korea Joonhang Daily. Les dépenses dans ces cours privés, en plus de l'école classique, atteignent des montants records. 29 000 milliards de won l'an dernier, c'est l'équivalent de 18 milliards d'euros, selon une étude menée par le gouvernement sud-coréen et l'Institut National de la Statistique, rapporte le Chosun Ilbo. Et c'est un cercle vicieux d'endettement, de pression dès le plus jeune âge qui mine toute la Corée du Sud, souligne le Financial Times. Dans le très chic quartier de Gangnam à Séoul, des enfants de 5 ans ont ainsi dû écrire une dissertation, raconte The Chosun Daily. Oui, vous avez bien entendu. Des petites 5 ans inscrits dans une académie de langue ont dû répondre à la question « Que se passera-t-il si la Terre n'a plus d'eau ?» Pour réussir ce concours d'entrée, qui inclut également des épreuves de vocabulaire, de grammaire, de compréhension écrite et un entretien individuel d'anglais, certains enfants sud-coréens commencent à fréquenter des classes préparatoires dès l'âge de 4 ans pour se préparer à cet examen, indique The Chosun Daily. L'enseignement privé continue de prospérer, et déplore le Hankuk Ilbo, à cause de l'anxiété des parents. Près de la moitié des enfants de moins de 6 ans sont désormais inscrits dans des écoles privées, indique le Financial Times.
이번 조사에는 처음으로 미취학 영유아 사교육에 대한 시험 조사가 포함됐습니다.
C'est une première. Cette enquête se penche sur l'enseignement privé pour les enfants qui n'ont pas encore l'âge d'entrer à l'école, explique la chaîne télévisée sud-coréenne SBS News. Les moins de 6 ans suivent donc des cours privés en dehors des crèches et des jardins d'enfants. Les familles dépensent pour cela 332 000 won en moyenne tous les mois, soit un peu plus de 200 euros. 5 fois plus pour s'inscrire dans une école maternelle anglaise privée. Le gouvernement prévoit d'inclure davantage les bébés et les tout-petits dans ses futures enquêtes sur l'enseignement privé, indique encore SBS News. La frénésie pour ces cours privés, explique le Financial Times, avant l'école ou bien en plus de l'école, atteint des records et ce malgré la baisse du nombre d'élèves et d'étudiants, ajoute le Korea Herald. La Corée du Sud est l'un des pays qui vieillit le plus vite au monde avec un taux de fécondité le plus bas de la planète, 0,75 enfants par femme l'an dernier, précise le Korea Joonhang Daily.
Mais les Sud-Coréens misent tout sur leurs enfants.
Choi Min-young, une fonctionnaire de 38 ans, consacre un tiers de ses revenus à l'éducation privée de ses 3 enfants, raconte le Financial Times. « Je ne veux pas les voir prendre du retard alors que tout le monde est dans le privé », confie-t-elle au quotidien britannique. Sachant qu'en Corée du Sud, les diplômes universitaires sont souvent liés aux perspectives d'emploi et de mariage, indique le Financial Times. Cette course à l'éducation, cette concurrence et cette frénésie pour le privé dès le plus jeune âge pèsent donc sur les finances des familles, alourdit leur endettement, freine la consommation intérieure et décourage in fine les couples d'avoir des enfants, ajoute le Financial Times, sans compter les risques pour la santé mentale des élèves. Le taux de suicide a d'ailleurs doublé en Corée du Sud en 8 ans. 214 élèves et étudiants ont mis fin à leur jour en 2023, alerte le Korea Times. Taux de suicide élevé également chez les enseignants, relève ABC News Australia, en raison des parents qui intimident et harcèlent des professeurs. Ce n'est pas un problème individuel, mais un problème social systémique, estime une chercheuse sud-coréenne, Chung Eung-ok, interrogée par le Financial Times. Et pour le Hankuk Ilbo, la situation actuelle révèle également un échec des réformes du gouvernement pour réduire la concurrence dans l'entrée à l'université.
Enfin, Catherine, les États-Unis ont expulsé 238 Vénézuéliens vers le Salvador.
Donald Trump remercie d'ailleurs le Salvador d'avoir accueilli des membres présumés de gangs, explique Fox News. La chaîne télévisée américaine relaie une vidéo où l'on voit les autorités salvadoriennes lourdement armées encerclant ces Vénézuéliens, les forçant à baisser la tête avant d'entrer en prison et de leur raser le crâne. Donald Trump a invoqué une législation de temps de guerre pour justifier ces expulsions, une loi de 1798 contre les ennemis étrangers, utilisée pour la dernière fois pendant la Seconde Guerre mondiale pour interner des Japonais, rappelle le New York Times. Mais un juge a estimé que cette loi ne pouvait s'appliquer en temps de paix. Il a donc ordonné à ses avions de faire demi-tour. ils se sont tout de même posés hier au Salvador. Oups, trop tard, a ironisé en anglais Nayib Bukele, le président salvadorien, sur X, cité notamment par le quotidien El Diario de Hoy. Pour CNN et la BBC, c'est clair, l'administration Trump a ignoré une décision de justice. L'administration Trump qui se rapproche d'un affrontement constitutionnel avec le pouvoir judiciaire, s'inquiète de son côté le New York Times. Le quotidien américain cite également ses groupes de défense des droits civils aux États-Unis pour qui l'invocation par Donald Trump de cette loi sur les ennemis étrangers pourrait permettre l'expulsion d'un très grand nombre d'immigrés sans justification ni audience.
Merci Catherine Dutu.